Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger.
Bonjour chers auditeurs, pour ce nouveau numéro, nous allons revenir sur l'œuvre d'un des plus grands cinéastes américains, voire un des plus grands cinéastes tout court, Thierry, nous en rediscuterons tout à l'heure. Il s'agit de Clint Eastwood, puisque Cinécentre lui consacre tout le mois de janvier une rétrospective.
Oui, une rétrospective en 6 films qui commence avec le Bird de 1988, pour s'achever avec American Sniper en 2014. Ces films sont montrés en version originale sous-titrée. C'est donc l'occasion de rattraper quelques chapitres perdus ou alors de revoir certains des films qui sont aujourd'hui de grands classiques.
Oui, effectivement, et qui, pour une grande partie d'entre eux, méritent bien d'être revus. Alors, qui dit Clint Eastwood dit réalisateur, nous venons de le dire, mais aussi comédien, et c'est d'ailleurs ainsi qu'a commencé la carrière du grand Clint.
Effectivement, au tout début de sa carrière, il fallait être bien fort pour deviner que le jeune acteur, plutôt bien fait de sa personne, qui arpentait les plaines de l'Ouest avec un Stetson, deviendrait un des grands auteurs, pourrait-on dire, du cinéma contemporain. En effet, dès ses débuts, il joue dans une série qui s'appelle Rawhide, une série qui va durer de nombreuses années. Et dans Rawhide, eh bien, il incarne un conducteur de troupeau dont le troupeau va traverser les États-Unis et aller toujours un petit peu plus loin après chaque épisode. Le fait est qu'elle n'ira jamais assez loin, puisque au bout de 6 années, le troupeau n'aura jamais réussi à traverser les États-Unis. Il n'empêche que Rawhide va montrer que Eastwood incarne le personnage, je dirais même l'archétype du cow-boy.
Et bien sûr, nous allons le retrouver dans les vêtements du cow-boy à de nombreuses reprises par la suite.
Oui, alors par une porte qui à l'époque est une porte dérobée, si j'ose dire, puisqu'il n'est pas, même s'il joue quelques seconds rôles, il n'est pas le cow-boy emblématique du cinéma hollywoodien, en tout cas pas tout de suite. Ce qui va populariser sa silhouette, sa façon d'être très taiseuse, il faut bien le dire, eh bien ce sont les films italiens.
Oui, alors variation sur le thème du western, puisqu'il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeler le western spaghetti, en l'occurrence des films réalisés par Sergio Leone, qui sont aussi très connus en France.
Ce sont 3 films en 1964, 65 et 66 qui vont véritablement faire connaître Clint Eastwood. Il s'agit de Pour une poignée de dollars, de Et pour quelques dollars de plus, et puis le fameux Le bon, la brute et le truand. De manière assez étonnante, c'est cette expérience du cinéma européen qui va véritablement le lancer sur le territoire américain. Et en particulier, il va devenir l'acteur fétiche d'un réalisateur qui travaille beaucoup dans le genre, que ce soit le policier ou le western d'ailleurs, qui est Don Siegel.
Oui, alors Don Siegel, c'est une collaboration qui sera un peu longue avec Clint Eastwood. On peut parler par exemple des Proies en 1970, dont d'ailleurs Sofia Coppola a fait un remake il y a quelques temps. Un film qui défraie un petit peu la chronique, si on peut dire.
De la même façon, pour Don Siegel, il va interpréter le rôle de l'inspecteur Harry, qui est effectivement un des rôles qui colle à la peau. Et dès ce moment, il y a une forme d'ambiguïté fondamentale qui entoure le personnage de Clint Eastwood, à savoir qu'il est véritablement le justicier, mais le justicier qui, en dépit de toute morale, choisit avant tout de se débarrasser physiquement de son ennemi et finalement s'arroge le droit de rendre justice ou de faire disparaître les forces du mal.
Oui, d'où son nom de Dirty Harry.
Alors, est-ce que Dirty Harry correspond à Dirty Clint ? C'est toute la question finalement qui va se poser tout au long du parcours de Clint Eastwood. On peut dire qu'avec un western comme Les Proies, ce n'est pas du tout Dirty Harry qui apparaît ici, puisque le personnage masculin est un personnage extrêmement faible.
Oui, et très malmené par la gente féminine.
Exactement. Malgré tout, d'autres peuvent dire en voyant ou revoyant Les Proies que le regard qui est porté sur les femmes n'est justement pas forcément un regard très valorisant, même si c'est un des rares films qui leur donne un rôle véritablement actif.
Oui, et qui leur donne un tant soit peu de pouvoir sur les hommes.
Quoi qu'il en soit, Clint Eastwood va passer à la réalisation et cela va être tout de suite beaucoup plus intéressant. Je pense en particulier à son premier film qui s'appelle Play Misty for Me, qui reste aujourd'hui, bien qu'il ait été tourné en 1971, un classique du cinéma américain.
Oui, c'est déjà la sensation de découvrir un regard singulier et un regard d'auteur, je pense. On peut le dire dès son premier film.
Voilà, c'est l'histoire d'un DJ qui est harcelé par les auditeurs, ou plutôt par une auditrice qui l'écoute attentivement et lui demande toujours de passer la même chanson. Évidemment, on voit que ce film va dériver très très vite vers le film policier, vers le thriller. Et encore aujourd'hui, c'est un film que nous ne saurions trop conseiller.
Clint Eastwood continue bien évidemment en parallèle sa carrière de comédien. Il va apparaître dans de nombreux films policiers, mais aussi dans des films de guerre. Et bien évidemment, toujours et encore, dans des rôles de cow-boy, puisqu'il ne cessera de revisiter, et comme comédien, et comme réalisateur, et même comme réalisateur se mettant lui-même en scène en tant que comédien, il ne cessera donc de revisiter tous les codes du western jusqu'au fameux dont nous allons parler dans quelques instants.
Et effectivement, à chaque fois, on remarque malgré tout qu'il prend ses distances avec le genre, soit qu'il le tourne, l'infléchisse dans un sens plutôt comique, soit qu'il joue carrément la carte de l'épure. Et on pense en particulier à un de ses plus beaux films, qui n'est peut-être pas le plus facile, qui s'appelle Pale Rider, en 1985, où il joue véritablement le rôle d'un cow-boy très, très solitaire et quasiment mutique.
Nous évoquions tout à l'heure son rôle d'animateur de radio dans Misty, son premier film en tant que réalisateur. Eh bien, il se trouve que Clint Eastwood a aussi un très grand amour pour la musique et notamment pour le jazz. Et ce sera l'objet d'un très grand film, Thierry, dont tu vas nous parler.
Oui, il s'agit d'un biopic. Alors, c'est très paradoxal parce qu'un biopic raconte la vie en général de quelqu'un d'autre. Ici, en l'occurrence, c'est la vie du jazzman, du saxophoniste Charlie Parker. Et c'est pourtant l'un des films les plus personnels de Clint Eastwood, un film particulièrement somptueux, un film qui, comme tu le disais, marque son goût très très prononcé pour le jazz. À peu près à la même époque, il produit un film autour du pianiste Thelonious Monk. Et en même temps, c'est un film où, en tant que réalisateur, scénariste, il prend beaucoup de risques. Des risques par rapport à la narration qui est fragmentée, les périodes de la vie de Bird, donc de Charlie Parker, ce télescope. À l'arrivée, c'est sans doute l'un des plus beaux films sur la musique qui puisse être.
Oui, peut-être davantage d'ailleurs un film sur la musique et un film sur le jazz qu'un biopic à proprement parler, puisque on ne découvre pas forcément de choses très académiques sur la vie de Charlie Parker.
Effectivement. Et je pense qu'il y a aussi une forme d'autoportrait, même très détourné, d'Eastwood en tant que créateur. Il est très clair qu'il y a ici, avec Bird, la rencontre de deux hommes qui sont des artistes et qui sont finalement en phase l'un avec l'autre.
Parlons maintenant d'Impitoyable, donc film sorti en 1992 et qui marquera un tournant dans la carrière de Clint Eastwood, puisqu'à partir de cette date, donc le film sera un très grand succès, et à partir de cette date, Eastwood enchaînera quasiment un film par an, et parmi lesquels des films tous très reconnus. Alors, Impitoyable, c'est un film qui d'abord contient un casting des plus alléchants, bon, Eastwood lui-même bien évidemment, Morgan Freeman, on retrouve aussi Gene Hackman et Richard Harris. Il est intéressant de se pencher sur le titre anglais. Le titre anglais est Unforgiven, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas pardonnés, qui serait peut-être plus adapté que le titre français, puisqu'il s'agit d'une réflexion sur la violence, d'une réflexion sur le mal qu'on a pu faire ou le mal qui est en nous et en chacun de nous. Et tous les personnages apparaissent comme torturés par leur conscience qui n'est pas forcément toujours très claire et chacun n'est ni vraiment bon ni vraiment pur. C'est la fin du western. Clint Eastwood joue, il joue évidemment dans le film avec sa propre image en tant que comédien dans ses précédents films. Il joue aussi donc en tant que réalisateur avec tous les codes du western. Ça donne un film absolument inoubliable qui sera donc un gros succès critique mais aussi un gros succès populaire. Et entre autres, il aura 4 Oscars. Et le film est d'ailleurs ressorti en salle en 2017.
Oui, ce qui est très beau dans le film, c'est, comme tu l'as souligné, à quel point il peut fonctionner à deux degrés. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'histoire de ce cow-boy sur le retour, ou plutôt qui tente un retour. Et d'un autre côté, c'est Clint Eastwood, dont on sent qu'il est parfaitement maître à la fois de l'histoire de son pays et de l'histoire du western. Et c'est très, tout à fait fascinant. On parlait tout à l'heure de Rawhide, qui était une sorte de western télé en série. Et ensuite, l'étape suivante, c'était le western spaghetti, donc une forme de distance. Alors, ensuite, un western un peu post-moderne, pourrait-on dire. Et puis, on en arrive là, comme tu le disais, littéralement à la fin du western. C'est ce qu'on a appelé le western crépusculaire.
C'est ça.
D'ailleurs, il y a beaucoup de crépuscules. Tout à fait. Au sens propre dans le film.
C'est la fin d'un monde. Hein.
Exactement, la fin d'un monde, la fin aussi d'une certaine Amérique.
Oui, oui.
Et du coup, c'est la fin du western et la fin d'une Amérique qui ne peut plus se reconnaître dans les représentations traditionnelles exactement du western. Je crois que ce qui est vraiment fascinant dans ce film, c'est de voir à quel degré de maturité est atteint par Eastwood à ce moment-là, en plus d'une interprétation assez bouleversante, il faut bien le dire. Parce que je pense qu'il est beaucoup moins monolithique qu'il a pu l'être parfois.
Oui, c'est ça.
Auparavant,
il se met en danger, il se met à nu et vraiment il réfléchit à sa propre image, et c'est vraiment effectivement touchant de le voir en tant que comédien et surtout mis en scène par lui-même, arriver à toute cette réflexion en fait sur le cinéma, sur le western et sur les États-Unis, comme tu disais tout à l'heure.
Alors, il y a un film dans la programmation qui est proposé par Ciné-Centre qui fait un écho absolument remarquable à impitoyable. Il s'agit de Gran Torino en 2008, parce que dans Gran Torino, alors certes, c'est au moins 15 ans plus tard, mais dans Gran Torino, c'est un peu le film de guerre qui va subir d'une certaine façon ce même traitement, puisqu'on a un soldat, un vétéran, qui lui, finalement, est complètement dégoûté de la guerre, du conflit, et qui va être amené à avoir une attitude tolérante, va-t-on dire, par rapport à des immigrés qui deviennent ses voisins.
Oui, c'est ça. C'est un ancien de la guerre de Corée qui donc est entouré dans ce quartier qui a bien changé depuis qu'il était jeune par beaucoup de gens d'origine coréenne. Et donc la cohabitation s'avère un petit peu difficile au début. Voilà, on est un héros ou on ne l'est pas. Et on va dire qu'il commet un geste héroïque pour protéger quelqu'un de la communauté coréenne et qu'il va devenir une espèce de dieu vivant pour cette communauté. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est, à l'époque, on pouvait le voir comme une espèce de film testament où finalement il revient sur l'ensemble de sa carrière. Là aussi, hein, il revisite le Dirty Harry qu'il a été, le canardeur, titre d'ailleurs français d'un de ses films où il faisait justice lui-même, c'est-à-dire le bourru qui tire sur tout ce qui bouge puis qui réfléchit après, qui est intolérant, xénophobe et j'en passe. Et bon, il va faire preuve finalement de grands sentiments et même du sacrifice de soi. Et effectivement, il remet là aussi en perspective toute sa carrière. Et c'est assez touchant de le voir là encore faire ce parcours-là.
On peut d'ailleurs, pour citer un film dont nous n'avons pas encore parlé, qui est sur la route de Madison en 1995, on peut aussi mettre ce film en rapport, puisque c'est un Eastwood qui se jette à ce moment-là, en 1995, dans le film carrément romantique. En ce sens, les deux derniers films de la programmation de Ciné-Centre, qui sont Invictus et American Sniper, sont peut-être moins intéressants que ceux de La Veine Impitoyable ou Gran Torino. Il s'agit de faire revivre le mythe du héros américain, même si les films, ça et là, montrent ses faiblesses et ses ambiguïtés. Même si le cinéaste paraît aujourd'hui subir une certaine décote, il est important de revoir ses œuvres, dont les beautés et les contradictions sont plus que jamais celles de l'Amérique. Pour nous quitter, je vous propose un extrait de Charlie Parker, extrait de la bande originale de Bird. Bonne semaine.